Chapitre 17e, Île Marianne. Guam, Agania, Fête, Mœurs. Effrayé de l'aspect des lépreux, je pris la fuite et rejoignis mes camarades qui m'attendaient à Hassan. Ceci est véritablement un bourg, mais un bourg propre et bien bâti. On s'aperçoit qu'on approche de la capitale, dont on n'est éloigné que d'un quart de lieue, et les environs plantés d'arbres odoriférants sont un jardin délicieux où l'on a hâte de se reposer. J'y fis une remarque assez singulière. Dans tous les lieux où s'était montré le cocotier, nous l'avions trouvé droit, élégant, majestueux. Ici, il change de nature et garde sa nouvelle forme jusqu'à Agania. Sa tige, d'abord verticale, fait un coude à une hauteur de 20 à 25 pieds et parcourt ensuite, presque horizontalement, une grande distance sans perdre de sa force et de la richesse de son feuillage, et se redresse enfin, comme un superbe panache, à deux brasses à peu près de sa brillante chevelure. L'aspect de ces arbres capricieux est vraiment fort curieux à observer, et de loin on croirait voir une vaste forêt à demi vaincue par les ouragans. Je ne vous dirai pas la beauté, la variété, la richesse des paysages qui se dessinent aux yeux d'Hassan jusqu'à Agania. Nul pinceau, nulle plume ne pourrait en donner l'idée. On se tait, on admire. Ceci est une ville véritable, avec rues larges et droites, avec carrefours, une place publique, une église, un palais. Ceci ne vous rapproche point de l'Europe, car rien ne ressemble à ce que vous avez vu jusqu'à présent, mais vous dit pourtant une conquête récente d'une civilisation bâtarde. Ce n'est encore qu'un reflet, c'est pour ainsi dire la parodie de nos mœurs, de nos lois, de nos usages, de nos vices mêmes et de nos ridicules. Mais c'est un progrès en tout, bien et mal, c'est un premier pas, une espérance. Viennent maintenant ici, pour gouverner cet archipel, un homme qui comprenne la morale, un réformateur philanthrope, un esprit droit, une volonté ferme, et vous aurez aux Mariannes des citoyens comme vous et moi, un code protecteur de tous les intérêts, une religion guide de toutes les consciences. Il y a 570 maisons à Agania, dont 50 seulement en maçonnerie. Les autres sont en bambou, arêtes de palmiers et feuilles très artistement serrées et liées. Toutes sont sur pilotis, à 4 ou 5 pieds du sol, ayant sur la façade et derrière un jardin avec enclos planté de tabac et quelques fleurs. Tout cela est fort gai, fort curieux à étudier. Ces maisons sont séparées les unes des autres. On y monte par une échelle extérieure qu'on retire la nuit et qu'on pourrait laisser en toute sécurité. Elles n'ont jamais plus de deux pièces. Dans l'une dorment les maîtres du logis, dans l'autre, en face de la porte, les enfants, les poules, les porcs, hôtes de chaque jour, et les étrangers visiteurs, constamment bien accueillis. Les meubles, consistant en petits escabeaux, hamacs, ardoises pour tourner la feuille de tabac, et mortiers pour réduire en poudre le sica. Ajoutez à cela trois ou quatre images de saints, de Christ, de martyrs, des vases en coco, des fourchettes en bois de sandal, des rosaires et des galettes qu'on fait sécher à l'air, et vous aurez une idée complète de ces demeures hospitalières où la vie s'écoule sans secousse, presque sans souffrance, jusqu'à une vieillesse précoce. Car dans ce pays si chaud, si fécond, on est homme complet quand chez nous on comprend à peine la vie. Le palais du gouverneur décore la seule place de la capitale. C'est un vaste corps de logis à un étage, moitié bois, moitié brique, avec force croisée et un balcon dominant la mer et planant majestueusement sur les maisons voisines. Devant sa façade sont placées 8 pièces d'artillerie en bronze, sur leurs affûts, gardées par des soldats en uniforme devant lesquels je vous défie de vous arrêter sans rire aux éclats, tant les guenilles dont on les a affublées sont bizarres et peu façonnées à leur taille. Un logement nous était préparé à côté du palais. Nous nous y rendîmes et nous nous trouvâmes bientôt en face d'un piquet de 24 hommes sous les armes, commandés par un major, un capitaine et 5 ou 6 lieutenants et sous-lieutenants. « Oh Charlet, oh Raffet, oh Bélanger, venez à mon aide !» C'est les esquisser tous que d'en esquisser un seul. Ils sont sortis du même moule. Il y a parité, on dirait des frères, mieux que ça, des sosies. Il est maigre, long et flanqué. Son chapeau à claque, le coiffe brassé carré, selon l'expression pittoresque de petit. Les deux coins, ornés d'énormes glands, descendent jusque sur les épaules et caressent des ombres d'épaulettes faisant face en arrière et venant visiter les omoplates. Le chef, dégarni de cheveux sur la face, en a plusieurs en queue, serrés tantôt à l'aide d'un ruban noir ou blanc, tantôt à l'aide d'une petite corde jaune ou rouge. Il a une moustache ou il n'en a pas, selon son caprice. Il se tient droit comme un de ces cocotiers d'Hassan dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il nage dans son habit avec plus d'aisance que vous ne le feriez dans un large manteau de mousseline. Celui-ci joint les deux revers par une agrafe au-dessous du menton, et sa chemine en pointe jusqu'au bas de la place des mollets, enfermée dans des guêtres où les cuisses et le corps tiendraient fort commodément. Un ceinturon noir ou bleu appliqué l'épée sur la hanche, épée à la Charlemagne, longue et plate, à fourreau déchiré. Le tout porté sur des souliers fins extrêmement effilés. Voilà à peu près. Mais c'est la tournure grotesque de ces maringouins déguisés qu'il faut admirer. C'est aussi l'air imposant et martial dont ils cherchent à se draper qui amuse et qui étonne. En vérité, on ferait volontiers le voyage aux Mariannes rien que pour voir, une fois seulement, l'état-major en grande tenue du gouverneur général de cet archipel pour le roi de toutes les Espagnes. Après notre inspection à la course, mes deux amis et moi nous nous rendîmes à notre logement pour nous préparer à notre grand voyage à Tignan, l'île des Antiquités. Une porte obéit, une sentinelle fumant son cigare était à côté de la nôtre. Là se voyait une prison avec des anneaux de fer au mur. Des cris déchirants sortaient de cette noire enceinte et j'y pénétrai sans que la sentinelle m'arrêtât. On frappait un sandwich chien amarré à l'un des anneaux de fer et ses épaules et ses flancs lambeaux attestaient de la vigueur du bourreau. Celui-ci, dont je vous parlerai plus tard, me salua de la main gauche, tandis que de la droite, il achevait l'exécution de la sentence. Mais cette sentence qu'il avait dictée, le valet lui-même. De quoi était coupable le sandwich chien? D'avoir répondu trop cavalièrement au valet. Nul ne savait dans l'île ce qui se passait en ce moment à la prison, hormis le bourreau, le patient et moi. La tâche finie, le sandwich chien s'en alla, et celui qui venait de le frapper lui lança violemment son bâton noué entre les jambes. À une sévère observation échappée de ma bouche, le misérable haussa les épaules, siffla et me laissa seul. Le premier dîner que nous donna le gouverneur fut précédé d'un dessert très confortable, où les plus beaux fruits de la colonie se trouvèrent étalés avec une profusion toute vaniteuse, mais où la grâce et l'empressement jouaient encore le premier rôle. La grandeur castillane étalait là son insolence et son orgueil. M. Medinilla se sentait fier de nous convaincre qu'il coulait dans ses veines un noble sang espagnol. Il se plaisait à nous parler de l'Europe, afin de nous prouver que ses usages ne lui étaient pas étrangers. Tant de coquetterie nous subjugua. Le repas de la soirée fut d'une gaieté charmante, et pour y ajouter encore un plaisir, le gouverneur nous demanda la permission de faire monter dans la grande salle une vingtaine de petits garçons et de petites filles qui se placèrent sur deux lignes, ainsi que des soldats lilliputiens, et entonnèrent des chants de chamor, avec une harmonie, à rivaliser avec un concert de chats sauvages. Puis, changeant de rythme, ils nous firent entendre quelques Noëls fort originaux et clôturèrent la séance par des cantates sonores et guerrières en l'honneur de leur noble pays, de leur noble souverain, de leur noble armée, de leur noble concitoyen, de leur noble noble. Cependant, M. Medinilla, devinant à nos grimaces qu'une pareille versification n'était pas fort de notre goût, renvoya les bambins sur la place publique, nous demanda la permission d'aller faire la sieste et nous invita pour le lendemain à de nouveaux délassements. Nous sortîmes donc du palais et parcourûmes la ville. Elle était déjà plongée dans le sommeil le plus profond. Ici le peuple vit couché ou accroupi. La brise à beau soufflet fraîche et bienfaisante, les hommes, les femmes restent cloîtrés dans leur demeure, étendus sur des nattes de manille ou dans des hamacs. Et il serait vrai de dire qu'aux Mariannes, tous les jours n'ont que 2 ou 3 heures, et que le reste, c'est la nuit. Le respect des fils pour leur père est ici une vertu de chaque famille. À son réveil, le padre, dont on ne parle jamais qu'en le dotant du titre d'altesse ou au moins de seigneurie, est entouré de ses enfants dont il reçoit les plus touchantes caresses. C'est à qui lui présentera ses vêtements, son cigare, son déjeuner, et jamais on ne prononce le nom de père sans le faire accompagner d'un salut de tête ou d'une révérence. Pendant le jour, la famille entière est occupée à épargner au chef toute fatigue, et le soir, après la prière, que lui seul a le droit de prononcer à haute voix, nul ne se couche que le Hamakulanat n'ait reçu le chef de la famille. Les garçons peuvent se marier à 14 ans, les filles à 12. J'ai vu une mère de 13 ans qui allaitait deux jumeaux. Ces exemples sont cependant fort rares. Le nombre moyen des enfants s'élève de 4 à 5 dans chaque famille. J'ai connu à Gagna un vieillard qui en avait 27, tous vivants, et M. Medinia nous a parlé d'une femme d'Assan qui comptait 137 rejetons, dont pas un n'avait été atteint de la lèpre. Citer de pareils faits, c'est en constater l'exception. Le langage primitif des naturels des Mariannes est guttural, bref, très difficile, et il est impossible de traduire quelques-unes de leurs articulations à l'aide de nos seuls caractères. On dirait parfois un râle douloureux, souvent aussi des sons qui ne s'échappent que du nez. Cependant, s'il est vrai que le style soit l'homme, il faut convenir que les premiers habitants de ce bel archipel avaient deviné la poésie et que les siècles et les conquêtes l'ont appauvri en substituant aux vives images de leur idiome la majestueuse gravité de la langue espagnole. Le Chamor dit, en parlant de la légèreté des procarolins, « C'est l'oiseau des tempêtes. Il coupe le vent, c'est le vent lui-même. » En parlant d'une mer calme, il dit toujours « le miroir du ciel ». Et si vous lui demandez ce que c'est que Dieu, il vous répond « c'est lui ». Il dit encore qu'un beau jour est un sourire de l'être suprême, et que les palmiers sont les panaches de la terre. Il appelle l'écriture le langage des yeux, les passions des maladies de l'âme, les nuages les navires de l'air, les ouragans et les tempêtes des colères. Chez ce peuple qui s'efface et disparaît, la langue a peu de mots et beaucoup d'images. La périphrase en est l'esprit. On ne va au but qu'avec un détour. Et il serait exact de dire que le Chamor ne dessine qu'avec des couleurs. Pour quiconque étudie avec soin les progrès ou la décadence des peuples, il n'est pas difficile de deviner que les premiers habitants de cet archipel sont tombés par la conquête et qu'il ne restera bientôt plus rien de ces hommes extraordinaires qui ont doté jadis ce pays de monuments curieux et gigantesques dont je vous parlerai bientôt et qui ont tant de rapports avec quelques-unes des ruines antiques découvertes en Amérique. Il y a haine permanente ici entre les familles pur sang Chamor et celles alliées aux Espagnols. Les premières méprisent les autres, celles-ci haïssent les premières. De là, les rixes sanglantes dans les campagnes, où les cadavres mutilés attestent la férocité, ou plutôt le délire du vainqueur. Il m'est arrivé quelquefois, dans mes promenades, de prendre sans réflexion deux guides de religion opposée, qui ont constamment refusé de m'accompagner, quelque brillantes que fussent mes promesses et mes récompenses. L'Espagnol refusait par dédain en disant « c'est un sauvage ». Le Chamor, avec brutalité, appelant l'Espagnol un homme dégénéré. Si un gouverneur rigide ne met un terme, par de sévères exemples, à ses fureurs héréditaires, la colonie aura son jour de deuil. Le costume des Mariannais est en parfaite harmonie avec la nature du climat torréfiant qui pèse sur tout l'archipel. Celui des femmes se compose d'une camisole flottante, voilant en demi la gorge, laissant le cou et les épaules nues. Elles se croisent, à l'aide de deux ou trois agrafes, sur la poitrine, et tombent sur les reins ou plutôt près des reins, sans arriver aux jupes, attachées à la hanche par un large ruban et descendant presque jusqu'à la cheville. Cette jupe est formée en général de 5 ou 6 mouchoirs en pièces appelées madras. Les pièces et les jambes sont nues, ainsi que la tête, sur laquelle on doit une immense et belle chevelure nouée fort bas. Puis, voyez des rosaires et des chapelets bénis au bras, sur le sein. En allant ou en assistant à la messe, il est rare qu'une seule d'entre elles, au lieu de la gracieuse mantille espagnole, ne jette pas sur son front un mouchoir bariolé qu'elle laisse flotter au vent en le retenant sous le menton avec la main. La plupart, sitôt qu'elles le peuvent, se coiffent d'un chapeau d'homme, et je ne saurais vous dire ce qu'il y a de gravité, de force, d'indépendance et de domination dans ces natures privilégiées où la vie circule si précoce et si puissante. La jeune fille de Guam ne marche pas, elle bondit. Plus élégante que l'Andalouse, elle a aussi plus de majesté et pas moins de coquetterie. N'espérez pas lui faire baisser les yeux par l'ardeur ou l'impertinence des vôtres. Vous seriez vaincu à ce défi qu'elle ne refuse jamais. Vous avez beau vous montrer fier et protecteur, elle est plus que vous et dédaigne votre protectorat. La jeune fille des Mariannes fume et mâche du tabac. Son cigare, à elle, est très volumineux, et il y a coquetterie exquise à se montrer la bouche pleine d'un cigare de 6 pouces de long et de 8 lignes au moins de diamètre. Les hommes portent une chemise blanche descendant jusqu'à mi-cuisse et des pantalons larges n'allant pas plus bas et attachés aux reins. Les jambes et les pieds sont nus, ainsi que la tête. Au surplus, leur démarche a, comme celle des femmes, un caractère de liberté, une allure de matamor qui s'y amerveille à leur taille admirablement prise, quoique petite, et l'on voit, au moindre de leurs efforts, se dessiner en vigoureux saillie les muscles de leur corps, de leurs jarrets et de leurs bras, taillis ainsi que ceux de l'Hercule Farnèse. Mais tout cela, je vous l'ai dit, c'est la vie de ces gens aux jours d'exception, aux heures forcées, car selon leur habitude quotidienne, ils dépensent une si belle existence dans le repos et le sommeil. Le teint des Marianais est jaune foncé. Ils ont des dents d'une blancheur éclatante, lorsqu'ils ne les brûlent point par l'usage ridicule et cruel du bétel et du tabac, saupoudrés de chaux vives. Leurs yeux sont grands et brillants, et leurs pieds, ceux des femmes surtout, sont excessivement petits et délicats, ce qui est fort remarquable dans un pays où peu de personnes marchent avec des chaussures. Le Tchamor tient du chinois par ses allures tortueuses, son caractère hypocrite et sa physionomie, mais surtout par son ardent désir de rapine. À peine est-il entré dans un appartement que son regard scrutateur lui dit les objets sur lesquels il fera main basse. Tout ce qui se trouve à sa portée est dérobé avec une effronterie et un cynisme révoltant, et si vous le frappez pour le vol qu'il vient de commettre, doublez la dose car à coup sûr, pendant l'opération, il aura fait un nouveau larcin.